There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent se faire connaître sur Internet, qui veulent vendre des choses, développer des activités, vendre des formations, des bouquins, ou tout simplement avoir une chaîne YouTube, discuter, partager leur passion, je ne sais quoi. Nous sommes aujourd'hui vendredi et c'est le dernier épisode en quotidien pour le moment. Voilà, je vous l'avais dit, quand je me suis lancé dans cette. Quand j'ai lancé ce podcast, je faisais une sorte de séminaire, on va dire, je m'étais fixé de faire pendant à peu près 3 semaines un épisode quotidien. Donc j'ai déjà enregistré 20 épisodes, aujourd'hui c'est le 21e. Ça veut pas dire que le podcast s'arrête, hein, je vous le dis tout de suite, ça veut dire qu'en fait, y a une petite pause qui va se faire pour reprendre du souffle, prendre du repos surtout, et puis parce que c'est les vacances, hein, voilà. Alors, je voulais j'ai profité de cet épisode-là pour faire un petit bilan. Déjà, pourquoi j'avais fait ces épisodes en masse? Alors je l'ai dit un petit peu dans le tout premier, puis j'ai expliqué un petit peu au fur et à mesure. Mon idée c'était de dire, j'aime bien le concept de faire un épisode par jour, une création par jour, parce que ça permet de se lancer de bien lancer les choses, etc. Ça permet de bien les lancer à la fois pour moi, parce que ça permet de trouver le ton, prendre l'habitude, donner une régularité, etc., d'être vraiment dedans, et puis ça oblige aussi à trouver des logiques de préparation, etc. Ça vous donnez vous aussi l'habitude d'écouter, de peut-être d'attendre ce rendez-vous chaque jour, ou je l'espère en tout cas. Ça permettait aussi de faire un effet de masse, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur une plateforme mais c'est pareil pour un blog ou c'est pareil pour beaucoup de supports. Par exemple, si vous lancez un compte Instagram, hein, en général, on met plusieurs photos, on dira à tout le monde qu'il est lancé. Ben, ça permettait le podcast comme ça, d'avoir sur iTunes ou sur des plateformes comme ça, d'avoir une vingtaine d'épisodes, de montrer l'esprit global de ce que je voulais faire et pas seulement un épisode et dire, ben voilà le prochain, je sais pas quand est-ce qu'il sera ou il sera la semaine prochaine. Si j'avais fait un épisode par semaine et avec 20 épisodes, on serait déjà presque à 6 mois. Et en fait, je sais pas si je commence à évoluer, c'est impossible à savoir, mais j'ai bien aimé ces 20 et quelques jours là qu'on a passé ensemble parce que, en fait, j'ai loupé une journée. Alors, il y a 2 jours où j'ai pas enregistré, il y a un jour où j'ai rattrapé en doublant le lendemain, et puis un jour où j'ai pas du tout enregistré, et puis j'ai pas rattrapé, donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est le 21e épisode, mais moi je suis dans mes timings de ce que je voulais faire. C'était aussi une sorte de séminaire, hein, j'ai dit un petit peu massif. On est à 10h23 au total avant cet épisode-là. On va faire en sorte que ça dépasse pas les 11h, hein, je vous le dis tout de suite, c'est le critère que je me suis donné aujourd'hui. Et donc d'abord, je voulais vous remercier d'avoir écouté, j'ai eu beaucoup de remarques, etc. Donc je vous disais, c'était un séminaire un peu massif qui avait pour but d'une part de bien introduire le sujet et autres, mais aussi de vous donner des éléments pour réfléchir, voilà, parce que après il y a une sorte de maturation qui doit se faire, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment donné, on vous donne beaucoup d'éléments, mais après, il faut le temps de les appliquer, de se lancer, de créer des choses, etc. Voilà, il y en a qui ont lancé des choses, qui lancent des formations, des newsletters, des streetcasts, etc. Il y en a qui ont écouté tout ce que j'ai raconté de A à Z, mais il faut maintenant laisser le temps de maturer un petit peu les choses. Voilà. Pour faire un bilan, je vais vous donner quelques éléments tels que moi je les ai ressentis. J'ai une petite intro à trouver. Vous avez remarqué que ma petite phrase de démarrage, alors mon bonjour est à peu près toujours le même désormais. Ma femme trouve que c'est un petit bonjour chantant. Là où j'ai un petit truc, c'est que ma phrase intro change. Alors des fois même, je vous l'ai dit, je l'ai refaite une fois ou deux. Des fois, j'appuie sur le bouton enregistrer, puis je suis pas content du truc. Alors je vais dire, avant de continuer, je reprends ça. En fait, c'est je veux pas faire un générique standard. Enfin, je veux pas que ça ressemble à une émission, qu'un générique. Il y a toujours la même petite musique. Des fois, j'ai changé la musique, mais je veux pas avoir une phrase de lancement qui soit enregistrée, puis ensuite je commence à parler. Enfin voilà, ça fait trop radio. Et c'est pas ce que je veux faire. Mais des fois, j'introduis bizarrement le podcast. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer que. Et je pense que c'est vrai que si vous écoutez plusieurs épisodes et plusieurs, si vous écoutez des podcasts, des streetcasts et que tout s'enchaîne, il se peut que dans certains épisodes, vous vous demandiez si ce podcast était le streetcast ou le streetcast était le podcast, etc., qu'il peut y avoir un mélange. Ben, en fait, au début, j'introduis un peu votre coach web, etc. Puis il y a des fois, je l'ai zappé et autres. Voilà. Mais ça fait partie aussi des choses que je vais avoir en réflexion dans ce temps de pause. Je vous dis de pas regarder les stats, mais j'ai quand même regardé les stats hein, un petit peu hein, ce matin, histoire de voir un peu où on en était. Donc au total, avant cet épisode, je vous le disais, il y a eu 10h23 d'émissions, au global, hein, d'épisodes. Il y a des épisodes qui vont de 5 minutes, qui était un critère que je m'étais donné pour faire un épisode de 5 minutes à plus d'une heure. Et puis, ça me pose une question, c'est qu'au début, je voulais faire des épisodes qui soient plus courts, entre 20 et 30 minutes. Il y a des fois où j'ai besoin d'un peu de place, et puis des fois où en fait j'ai pris la place, où je me suis un petit peu étalé. Mais ça me permet de revenir sur la loi de Parkinson que j'avais évoquée, c'est que bah, quand vous avez le temps, vous prenez le temps, et si vous n'avez pas le temps, voilà. Alors, 5 minutes, c'est un poil court, une heure. Je pense que c'est le maximum que je voudrais faire. Mais j'ai des évolutions qui sont prévues. Par exemple, je vous le dis, j'aimerais bien des fois interroger des gens qui créent des contenus, des choses comme ça. Et peut-être il pourrait y avoir des épisodes qui soient aussi des interviews, de discussions plutôt, hein. Et peut-être que dans ce cas, il faudra un peu plus de temps, je sais pas. Ça, c'est quelque chose que je vais travailler, sur lequel je vais réfléchir aussi assez clairement. Tant qu'on est au stat, alors dans les lectures, hein, il y a des les lectures sont très variables d'ailleurs. Il y en a qui ont été plus écoutées sur les plateformes de Spreaker avec les players, donc sur mon blog ou sur Twitter, dans les partages directs, etc. D'autres sont plus écoutées en téléchargement et donc il y a des variations qui sont assez surprenantes. Voilà, il y a plusieurs centaines, on dépasse même les milliers de téléchargements de lectures en ligne, etc. Mais ça, c'est pas le Pour moi, c'est pas la même préoccupation, etc. Ce qui m'intéressait par contre, c'était de voir les épisodes les plus populaires. Donc, dans les trois épisodes les plus populaires, le plus populaire serait la roue des cinq savoirs et la marque personnelle. Qui est un épisode que j'aime bien et que je trouve important et sur lequel je vous l'avais dit, je fais réfléchir beaucoup de gens là-dessus. Le deuxième épisode le plus populaire serait Entraînez-vous à publier du contenu. Donc, c'était mon. Je vous exhortais. À publier du contenu régulièrement, même si vous n'en êtes pas satisfait. Et le troisième épisode le plus populaire, c'est Fais-toi confiance et publie. Ben, qui en fait, c'est amusant, mais ces trois épisodes fonctionnaient un petit peu en partie ensemble, sans être vraiment liés. Il y a eu des épisodes qui fonctionnaient encore plus ensemble que ça. Mais quelque part, on est dans une logique, alors, qui est pour moi, qui est le cœur de ce que je voulais vous dire, hein, c'est. L'important pour moi sur Internet, c'est si vous voulez vous faire entendre, faut parler quoi, faut prendre le micro, faut publier, faut diffuser de l'information. Si vous ne le faites pas, de toute façon, vous n'existez pas. Donc, si votre but du jeu c'est de vendre des choses, de vous montrer, de montrer ce que vous faites, de toute façon, vous êtes obligé de vous exprimer. Donc, c'était un petit peu le sens. Et donc, je suis assez content que ces épisodes soient dans ceux qui remontent. Et puis, la roue des cinq savoirs et la marque personnelle, pour moi, c'est le fondement parce que. Notamment sur l'histoire de la marque personnelle et autres, et on parlera un tout petit peu tout à l'heure des plateformes, c'est une question qui m'était posée. Je pense que ce qui reste, en fait, c'est la marque. C'est-à-dire que vous ayez un compte Twitter, un Instagram, du podcast, de la chaîne YouTube, etc. Ce qui doit rester au final, c'est la marque. C'est la marque que vous allez imposer. Quand on vous retrouve par du mail, du réseau social, de la vidéo, quoi que ce soit, ce qui va rester, c'est qui vous êtes en tant que personne, en tant que ce que vous voulez imprimer comme comme impression, comme confiance qu'on va dégager en vous, comme le personnage que vous êtes, etc. Et donc c'est pour ça que la marque personnelle est particulièrement importante, je trouve. Ensuite, je voulais vous faire un bilan sur un point sur lequel j'avais essayé de travailler. Je me suis posé beaucoup de questions. C'était un questionnement interne dont je vous ai fait part plusieurs fois. C'est la question du tutoiement et du vouvoiement. Alors vous avez constaté que j'ai fait quelques épisodes, enfin deux ou trois en tutoiement. Vous constatez qu'aujourd'hui je suis dans le vouvoiement et c'est ce qui va rester comme forme, c'est le vouvoiement. Alors il y a plusieurs raisons. D'une part, j'ai dit je l'ai essayé. J'arrive pas à le tenir sur un épisode complet, mais je pense qu'avec un véritable entraînement, on doit pouvoir le faire. Voilà. Si par exemple je me mettais à faire du streetcast dans lequel je tutoyais les gens pendant, je fais 5 streetcasts en tutoyant les gens, je pense qu'après ça devait venir logique. D'ailleurs, il y a des fois j'écris des phrases en tutoiement. Je dois vous dire aussi que des fois le podcast il se fait dans ma tête. Il y a des fois il y a des trucs qui se font dans ma tête et des fois c'est le tutoiement qui ressort. Mais dans le réel, quand je démarre le micro, ma petite routine du matin, voilà, j'ai mon petit café, ce matin j'ai mis ma casquette sur la tête, mais il y a du soleil, mais je suis à l'intérieur, mais je sais pas, j'ai envie de faire ça. Quand je démarre ça, vous voyez, je suis dans le vouvoiement, parce que en fait mon quotidien c'est de faire la formation, c'est d'avoir des groupes, des classes, etc. Et eux je les vouvoie, parce que, alors d'une part il y a des formations, je suis obligé de le faire, c'est bon, il y a une... Moi, c'est un respect, quoi. Enfin, un élève, quand il vient me voir, j'ai beaucoup de mal à tutoyer mes élèves, contrairement à certains autres profs qui tutoient leurs élèves. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. J'ai des élèves, des fois, j'ai des classes de 100 personnes, donc là, forcément, je m'adresse à tous, mais quand je m'adresse à quelques-uns, je garde le vouvoiement. J'ai même des formations dans lesquelles c'est dans le contrat de vouvoyer les gens. Je parle d'écoles, hein, de petites écoles. Et donc... pour moi c'est l'habitude, et puis quand je fais des formations, etc., il y a des fois des gens qui me tutoient, mais moi j'ai beaucoup de mal à les tutoyer, je suis plutôt dans le vouvoiement. Quand je connais pas les gens, c'est un petit peu ma distance, on a chacun des distances dans lesquelles on laisse rentrer les gens, etc. Moi j'accepte qu'on me tutoie relativement facilement, mis à part, et je le dis toujours à certaines personnes, c'est sur l'activité de Cyberbounia, il y a des hommes politiques, etc., et ils ont l'habitude de tutoyer un peu tout le monde, ils tutoient beaucoup la journaliste, etc., et moi je leur dis toujours... qu'on n'est pas potes, quoi. Et le tutoiement dans ce cas-là est introduit, réduit la distance, et des fois j'aime pas la réduire. J'aurais aimé essayer de la réduire, par exemple, dans les épisodes de podcast, mais en fait, moi je suis pas à l'aise, et puis j'ai eu quelques remarques de certaines personnes qui trouvaient que finalement c'était pas non plus si bien que ça. Il y a des gens qui l'aiment bien et des gens qui l'aiment pas, alors c'est très compliqué. Je suis désolé si vous aimiez le tutoiement, mais je vais rester sur le vouvoiement. Si vous aimez pas le vouvoiement, tant pis, mais c'est ce qui va s'imposer, parce que c'est là-dedans qu'elle est pour moi là. C'est ce qui s'impose le plus simplement, et c'est ce qui me pose le moins de questions, et c'est ce qui me permet d'être le plus naturel. Et le naturel, l'authenticité, vous savez à quel point ça me tient à cœur. Voilà, donc ça c'était la petite partie bilan. Ensuite, je voulais vous faire... j'ai eu quelques réactions sur des épisodes. Alors j'ai eu une réaction de Guillaume, immigré au Japon, qui a du podcast, du streetcast, etc. Et qui m'a fait deux réflexions super intéressantes. Alors la première, par rapport à mon épisode, vous savez, c'est un épisode qui s'appelle... c'est cet épisode qui n'a pas de titre, parce que c'est un épisode long sur lequel j'avais de la réflexion, et je parlais de trouver sa voix. Je disais par exemple que les formations qui disent trouver sa voix, je trouvais ça un peu bizarre, parce que en fait on a tous sa voix, et que... mais que des fois il faut l'exprimer, voilà, je disais on doit parler de soi et on doit pas chercher à trouver de quoi on va parler avant de vouloir en parler, mais par contre on doit trouver comment en parler. Enfin, c'était un petit peu ce que je voulais dire, mais en fait Guillaume, lui, il l'exprime beaucoup mieux que moi. Alors il m'a fait deux tweets sur le sujet. Donc il me dit: trouver sa voix, c'est trouver l'expression de ce que l'on est dedans naturellement, c'est une construction à partir de soi. Et surtout le tweet suivant, je lui ai dit: j'aimerais pouvoir dire ce qu'il a dit exactement. Il a dit: mais la voix se travaille, la nature de la personne, non. Un écrivain a sa nature de toute éternité, mais sa voix change avec l'expérience. Et en fait, il a dit à peu près ce que je voulais dire, c'est-à-dire exactement, enfin même pas à peu près, quoi, c'est exactement, c'est ce que je lui ai dit. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au fond, nous, on est ce que nous sommes, mais on peut l'exprimer de différentes manières, on peut apprendre à l'exprimer de différentes manières. L'expérience va nous faire exprimer de différentes manières la vie, etc., ce qu'on traverse, ce qu'on voit, etc. Mais quand vous parlez de passion, quand vous parlez de ce que vous faites, de vos créations, de ce qui vous anime, etc., au final, quelle que soit la manière de le dire, et puis au fil du temps, elle change. Mon point de départ de cette discussion, de cet épisode, était de dire que c'est vous au fond de vous, quoi. On en revient à cette histoire de qui vous êtes, ce que vous l'apportez aux autres, etc., et comment vous voulez l'apporter, et comment vous ressemblez à vous-même. Lionel, que je cite souvent, avait fait un épisode de Streetcast sur l'alignement. Et moi, je vous ai parlé de cohérence et de congruence. La congruence et l'alignement, c'est exactement la même chose, mais c'est que quand on est aligné avec soi-même, avec ses objectifs, avec ce qu'on a envie de faire, quelque part, ben, ça devient plus facile. Le moyen de l'exprimer, c'est une autre chose, en fait. Voilà, on pourrait faire de la théorie de la communication, mais j'ai pas envie de le faire sur cet épisode-là, en tout cas, mais c'est un sujet qui pourrait... On pourrait parler de théorie de la communication sur pas mal de choses. Mais là-dessus, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, mais ça serait un sujet intéressant à aborder là-dessus. Alors, Guillaume fait une autre anecdote intéressante par rapport à l'épisode sur les statistiques. Je vous disais, il ne faut pas regarder les stats, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, ne vous accrochez pas aux stats au départ, surtout au départ, quoi. Et il m'a fait un petit message sur via encore.fm. Alors je vous l'ai pas dit, je l'ai cité plusieurs fois, je fais des tests de encore.fm, qui est une application qui permettrait de faire du podcast ou du streetcast assez facilement, qui a une fonction qui est assez géniale d'ailleurs. C'est que bon, il y a plusieurs fonctions pas mal. C'est qu'en fait ça vous crée une station radio qui se met à jour au fur et à mesure, un peu comme un Snapchat ou une story, quoi, qui se mettra au fur et à mesure. Vous pouvez mettre du jingle, de la musique sur Spotify, d'Apple Music. Vous pouvez mettre des sons que d'autres personnes vous envoient, vous pouvez même faire des interviews téléphoniques que vous allez incruster dans votre support, et puis vous pouvez enregistrer. Alors il y a une fonction qui est pas mal, c'est que vous mettez le téléphone à l'oreille, ça détecte la présence du téléphone et ça lance l'enregistrement avec un petit bip, et quand vous enlevez le téléphone, ça l'arrête. Ça c'est un truc qui est pas mal, parce que vous pourriez faire en fait de ceux qui sont les plus timides, j'ai envie de dire. Moi, par exemple, j'essaye de faire du vlog dans la rue, mais faire du vlog dans la rue avec la caméra face à soi, faut dire qu'il y a pas mal de gens qui vous regardent bizarrement. Si vous vous sentez bizarre de parler vous-même, par exemple, faire un épisode, pour reparler de Lionel l'autre jour qui parlait de faire du streetcast à la Fnac, bon, si vous avez un casque micro, c'est relativement facile, les gens ont l'impression que vous parlez au téléphone. Mais un jour, je faisais un épisode de streetcast dans le bus, il y avait deux jeunes qui me regardaient, ils voyaient que c'était pas une discussion téléphonique. Bon, si ça vous gêne, cette fonction d'encore, excusez-moi, je bois un coup, hein, pardon. Donc cette fonction d'encore est assez intéressante, parce qu'elle vous, c'est comme si vous avez une discussion téléphonique avec quelqu'un. Voilà. Vous mettez le téléphone à l'oreille, vous parlez, hop, et après c'est fini, vous publiez. Bon, encore un gros défaut, c'est qu'il tronque les réponses. Les messages audio, il les enregistre entièrement, mais quand vous les publiez, des fois il manque la fin. Et c'est le cas du message de Guillaume. Mais par contre, ce qu'il me dit est intéressant, c'est par rapport aux stats. Il me dit qu'en fait, la vidéo qui a le plus de succès a dépassé ses 100 000 vues, mais c'est une vidéo qui a 9 ans et c'était la première vidéo postée. Et elle est très largement au-dessus de son nombre d'abonnés. Et c'est vrai que c'est un côté qui est à la fois amusant, mais aussi déplaisant et un peu contrariant des fois, je vous l'avoue. C'est qu'on a des vidéos, des contenus, des photos qui marchent mieux que d'autres. Il y en a qui marchent dès le début, il y en a qui prennent du temps à marcher, il y en a qui gardent une visibilité dans le temps et qui va durer très longtemps. Mais il y a une chose qui est difficile de le prévoir dès le départ. C'est très très compliqué de savoir ça dès le départ. En fait, à chaque fois que vous mettez un contenu sur Internet, c'est comme une sorte de point de passage, de point d'entrée qui permet à des gens de vous découvrir. Et des fois on pourrait se dire je fais 100 000 vues sur une vidéo, j'ai gagné plein d'abonnés, mais des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas, et notamment parce que YouTube est un territoire de consommation. Pour que les gens s'abonnent et puis vous suivent réellement, il faut quand même arriver à donner d'habitude, c'est un peu compliqué, et vous avez plein de gens qui tombent sur vos vidéos parce que tout simplement elles sont bien référencées, etc. Et quand on fait ce genre de contenu, ces stats, des fois on se dit ouais, on a une vidéo, elle fait 30 vues, 40 vues, puis des fois elle décolle. Et c'est pour ça que je disais les stats, des fois elle vous désespère, des fois elle vous met du courage, etc. Mais il y a un moment donné, il faut avoir un poil de recul Et je trouvais que cet exemple était intéressant parce que c'est pas parce que vous faites une vidéo à 100 000 vues que vous arriverez à faire d'autres vidéos à 100 000 vues. Et c'est pas parce que vous faites des vidéos à 300, à 100, à 50 vues qu'un jour vous n'aurez pas une vidéo à 100 000 vues. Et je donne toujours un exemple à mes étudiants. Vous vous rappelez, les mecs ont fait les trucs de Pepsi là. Ils mettaient des Mentos dans du Pepsi. Ils faisaient des vidéos où tout explosait en l'air, etc. Vous vous rappelez tous de ces vidéos parce que ça fait un carton monstrueux. Les gens les ont reproduits. Derrière, ces gens-là ont une agence de création de contenu. Ils ont fait des vidéos, par exemple, pour des gens qui font qui vendent de la fourniture de bureau. Mais des trucs qui étaient magnifiques. Des vidéos qui étaient beaucoup plus propres dans la réalisation que ce qu'ils faisaient ce qu'ils ont fait avec ces vidéos Coca, Mentos, etc. Et pourtant, qu'on fait beaucoup, 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 beaucoup moins de vues. Parce qu'en fait, le succès, on a les recettes du succès potentiel, mais le reproduire, c'est super compliqué. Certains arrivent à le reproduire, hein, on pense toujours aux grands réalisateurs, etc., aux producteurs qui arrivent à le reproduire, mais on voit pas aussi qu'ils ont des échecs à côté. Et on pense aussi, par exemple, on se dit, ouais, tiens, il y a des youtubeurs, dès qu'ils sortent une vidéo, de toute façon, c'est un carton. Mais en fait, si vous regardez les stats, c'est pas le cas. J'ai souvent cité Casinestat, et je le citerai souvent encore, mais Casinestat, il a des vidéos à 17 millions de vues, puis il a des vidéos qui en ont beaucoup moins. Même si maintenant, bah, quand vous avez 6 millions d'abonnés, vous avez toujours une base de gens qui sont attachés à vous, qui vont regarder globalement ce que vous faites. Mais, soyons honnêtes, c'est compliqué de prévoir le succès. C'est d'ailleurs pour ça que je déteste faire du buzz, les opérations de marketing virales. C'est parce que, en fait, les gens qui vous commandent une opération de marketing virale sont persuadés que vous allez faire un carton avec. Et dans la réalité, bah, personne ne peut le prévoir. Donc il y a souvent de la déception. Ou alors c'est un coup de bol pour réussir. Et ça, je vous l'avais raconté dans un autre épisode. Une autre action que j'ai eue donc aussi, c'est Gaëtan qui m'a relayé un article qu'il avait écrit, je crois qu'il y a octobre 2016. C'est faut-il encore avoir un site web aujourd'hui? Alors ça revient sur les questions que je m'étais posées, notamment ces histoires de plateforme, de liens, etc. Je vous mets le lien vers son article qui est sur Medium. Il a commencé à en parler sur Twitter, j'ai mis un lien dans le groupe de Facebook des créateurs de contenu pour en discuter, pour l'aborder. Alors ça revient sur des sujets que j'ai abordés, hein, sur l'ère des plateformes, l'email n'est pas mort, on est d'accord là-dessus. Le coût que peut avoir un site internet, ça je suis d'accord avec lui, il y a un vrai coût. Ça dépend après les plateformes qu'on prend, mais hier j'ai pris par exemple un nouveau, j'ai ouvert un nouveau, enfin je l'ai ouvert, non personne ne le sait, mais je suis en train de mettre en place un blog par exemple. J'estime que l'hébergement de certains de mes sites me coûte entre, alors ça dépend, hein, j'en ai, c'est 400 euros l'année, comme Cyberbunia par exemple, et puis un blog plus petit, on va être entre 9 ou 10 euros, ça dépend des cas, alors des fois je les ai mutualisés et autres, donc c'est vrai qu'à l'année il y a un vrai coût de publication, plus les noms de domaine, etc., plus les outils, mais l'outil que vous publiez sur Medium ou sur YouTube, sur Facebook, finalement, vous avez toujours le même outil, pratiquement, quoi. La facilité, là, je suis d'accord, pour certains, c'est pas facile d'ouvrir un site, mais si vous l'ouvrez sur WordPress.com, enfin, quoique hier, j'ai trouvé que l'interface de WordPress.com était un peu bordélique. On a essayé de faire quelque chose pour une copine de ma femme, là, qui et lancer son site a été un peu compliqué. Il y a des trucs qui sont obscurs, hein, chez WordPress, des fois, maintenant, je trouve, comme toutes les plateformes, hein, au départ, ça part simple, et puis ça arrive bordélique à la fin, quoi. C'est à force de vouloir en rajouter, de s'éloigner de ce qu'on fait, ça devient bordélique. Et sa conclusion à Gaëtan est, si avoir un nom de domaine précis peut avoir son importance, il existe une solution intermédiaire, n'acheter que le nom de domaine et le rediriger vers sa plateforme de prédilection, et il donne le cas de Medium. Alors, je suis assez d'accord. Notamment que Medium, vous pouvez créer une publication dans laquelle vous allez attacher un nom de domaine et faire en sorte qu'en fait votre publication Medium réponde à votre nom de domaine. Donc c'est bien votre nom de domaine. Pour moi, je l'ai dit, faut-il avoir un site? C'est oui. Enfin, quasiment dans tous les cas, il faut avoir un site. Ne serait-ce qu'un site, une petite plaquette qui renvoie vers les liens de tout ce que vous faites ailleurs. Ça, je l'ai dit, parce que d'une part, c'est beaucoup plus simple. C'est facile de donner une adresse, vous dites, voilà, vous me trouvez sur bertrandsoulier.com et vous suivez les liens, que dire, vous me retrouvez sur YouTube, slash, cherchez-moi et je sais pas quoi, etc. Ou alors vous faites une URL courte. Moi, si vous tapez bertrand.video, vous tombez sur ma chaîne YouTube. Si je faisais un bertrand.podcast, vous pourriez tomber sur ma chaîne de podcast, mais je ne l'ai pas fait. Je l'avais dit, hein, mon truc à moi, c'était que je voulais faire un bertrand.blog, mais à 549 euros le nom de domaine, Merci WordPress qui détient l'extension .blog au passage. Ça m'énerve. Mais c'est pas trop le sujet, mais le truc vraiment, voilà, c'est que dans l'écosystème, pour moi, il faut avoir un bout de site, quelque chose qui relaie. Ne serait-ce, alors, le site, de toute façon, il sera indispensable. Je vais distinguer deux choses. Il y a la partie le site et la partie comment on l'héberge, on l'a en stock. Faut-il avoir un site? Pour moi, c'est oui. Faut-il le mettre sur un hébergement que l'on possède ou sur une plateforme? Je l'ai dit, pour moi, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on a bien son nom de domaine? Oui, il le faut. Est-ce qu'on peut récupérer les données? Oui, il le faut. L'avantage de la plateforme, c'est que c'est plus simple et ils font des sauvegardes. Là-dessus, Gaëtan a entièrement raison. Pour moi, c'est la clé. Est-ce que je peux partir avec mon contenu? Comment je peux l'exporter, etc. J'ai écouté le podcast de Thibaut qui disait que il a arrêté son blog, mais qu'il voulait le garder en archive comme ça. Par exemple, un WordPress, il faut savoir que vous pouvez transformer un site WordPress en Jekyll, donc en version statique assez facilement, parce qu'il y a des trucs qui peuvent l'exporter, etc. Donc là-dessus, il y a plein de choses. Après, est-ce qu'on va le mettre sur Medium avec un nom de domaine? Pourquoi pas. Sur du WordPress.com, pourquoi pas. Squarespace, par exemple, a des outils qui sont super bien. Sur Squarespace, vous pouvez avoir un calendrier des événements que vous faites, vous pouvez mettre du podcast facilement, vous pouvez mettre des landing pages en pagaille, vous pouvez, alors c'est une plateforme qui est plus chère, hein, vous pouvez faire des belles pages sans rien connaître, et puis vous pouvez avoir votre nom de domaine, vous pouvez mettre en des espaces privés, vous pouvez vendre des choses, genre de la formation, du PDF. Il y a pas mal de choses, par exemple, sur cette plateforme qui est assez intéressante là-dessus. Bon, je vous le dis, elle est un poil plus chère quand même. Mais pour moi, la clé, c'est le nom de domaine, je l'ai dit, avoir un endroit où on peut vous trouver facilement, et puis même si vous renvoyez ensuite sur tous les réseaux sociaux, si vous en renvoyez sur une inscription à une newsletter, il faut quelque chose. Après, il faut pouvoir récupérer les données pour pouvoir bouger ailleurs, et puis être conscient qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que Internet bouge très vite. Et je vais vous faire, je sais pas si vous l'avez vu, mais Etsy a annoncé la fermeture de Elittle Market et Elittle Mercery, qui sont des plateformes de vente dans laquelle tout le monde peut mettre ses produits. Alors c'est du fait main ou c'est des alors Elittle Market, c'est vous cousez un coussin, vous le mettez sur Elittle Market. Elittle Mercery, c'est plutôt vous faites de la laine, des pelotes de laine, et vous les vendez, vous voyez, des éléments. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que quand Etsy ferme la plateforme, il laisse des milliers de vendeurs dans la merde. Et ça, ils vont leur dire d'aller sur Etsy. Mais la vraie question qui se pose pour ces vendeurs, c'est quel est l'avenir d'Etsy? Parce que Etsy vient de licencier des gens. Et donc, si vous n'avez basé votre business que sur Etsy, que va-t-il venir de vos contenus? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Si Etsy est un complément à une boutique en ligne, un complément à un blog, etc., vous pourrez toujours dire aux gens, voilà, sur Etsy ça ferme, sur Little Market ça ferme, mais vous pouvez me retrouver ailleurs, voici où je me déplace, etc. Et ça, quand même, il faut le prendre en compte, parce que ça fait partie des éléments qui sont importants désormais. Et on ne sait pas de quoi est fait les choses, hein. Etsy, ça paraît être une grosse boutique qui a fait des trucs magnifiques, etc. Et puis quand on vous annonce qu'ils licencient, je crois que c'est leur deuxième vague de licenciement quand même. Par exemple, Medium, hein. J'entends beaucoup dire Medium c'est l'avenir, oui, sauf que Medium par exemple a réduit la voilure, ils cherchent leur business model, etc. Et il faut se rappeler aussi que YouTube ne fait pas de bénéfices. YouTube est surtout une machine qui génère de la publicité, etc., mais c'est pas une société. Le coût de structure de YouTube est tellement énorme, voilà, et que quelque part même une société comme ça, alors Google bien sûr a de quoi le supporter, mais si YouTube était une société indépendante, YouTube serait sûrement mort depuis longtemps. D'ailleurs Dailymotion a changé de business model, et Vimeo s'en sort parce que Vimeo fait payer surtout des services pour les pros, etc. Donc on ne sait jamais de quoi ça va être fait. Alors c'était ma conclusion à cette question, mais elle est un peu en suspens, et puis alors, on y reviendra régulièrement, je pense. Et puis, pour terminer cet épisode, donc je vous l'ai dit, hein, c'est une petite pause, on va dire vacances. Moi, je rentre dans ce que j'appelle les mois d'été, c'est je vais reprendre les cours. Je vais donner des cours à partir de septembre, hein, la rentrée scolaire et mes étudiants, c'est à partir de septembre, mi-septembre. Puis après, octobre, novembre, décembre, ça va accélérer très 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 fortement. Et donc, l'été, c'est aussi le moment où moi, je recharge mes batteries. hein, l'énergie, mais bon, là j'en manque pas en ce moment. Mais c'est aussi le moment où je recharge mon cerveau un petit peu, c'est-à-dire que j'ai besoin de repos, de réflexion, et puis quand vous coupez, quand vous êtes loin du clavier, il y a plein de choses qui vont revenir. C'est aussi pour moi le moment d'accélérer dans mon ingurgitation de livres et de nouvelles choses à apprendre. Et par exemple, je voulais vous donner, finir cet épisode, j'ai une pile de livres à côté de moi, je les mettrai en photo sur Insta quand même parce que ça vaut le coup. C'est pas les romans et les essais, hein. C'est hors romans et essais. Par exemple, je veux lire L'Alchimiste de Coelho, j'ai été chargé Little, je sais pas quoi, de Cory Doctorow, je me rappelle plus le nom du bouquin. J'ai quelques bouquins comme ça. Mais hors romans, essais, je vais vous donner la liste très rapidement des livres que j'ai mis, soit pour lire entièrement, soit parce qu'il y a des choses dedans dans lesquelles je vais me référer. Je commence très rapidement, Tribu de Seth Godin, pour moi c'est un bouquin, il a 7-8 ans maintenant, ou peut-être presque 9, pour moi Seth Godin, c'est, si vous n'avez pas lu, si vous cherchez un truc à lire en marketing, en viralité, etc., Seth Godin dans tous les cas. Tribu est un livre qui est pour moi indispensable, je rajouterai le Cloutray Manifesto si vous ne l'avez pas lu, mais j'avais déjà cité dans un autre truc. Allez, je continue ma pile. J'ai acheté hier le livre qu'il vous faut pour réussir sur Instagram. Or, c'est pas vraiment la lecture, mais c'est plutôt pour donner de l'inspiration pour faire des photos Instagram. J'ai aussi donné envie d'apprendre. Là, c'est le kit de survie du formateur. Bah, c'est pour renouveler un peu mes méthodes de formation, d'apprentissage, etc. Pour mieux aider les gens que je forme, et que ce soit des étudiants ou des gens, des pros. Assumer son autorité, motiver sa classe, ouais, c'est encore des choses sur les techniques vocales, corporelles, verbales, pour s'entraîner, captiver, transmettre, etc. Et je pense que ça, je vous en reparlerai, parce que j'ai vu des choses très intéressantes à l'intérieur, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et ensuite, j'ai des livres un peu plus... j'avais acheté il y a quelques temps déjà, Gagner avec le digital, comment les technologies transforment les entreprises, voilà, ça fait partie des choses que je vais ingurgiter. Puis je rentre après dans des livres un petit peu plus... universitaire, identité numérique, expression et traçabilité. Alors c'est dans une collection qui s'appelle Les Essentiels d'Hermès, c'est fait par le CNRS édition, alors autant vous dire que là on est dans de la publication scientifique. De même que Sociologie des réseaux sociaux, là pareil, c'est pas la même collection, mais c'est du... on est exactement dans les mêmes types de contenu. Alors là c'est un petit livre, mais c'est écrit petit aussi, donc je me méfie de la taille. Et puis j'ai Sociologie d'Internet, Armand Collin, qui doit être l'éditeur. Alors c'est là aussi c'est de l'universitaire, je pense, hein, plutôt. Sociologue, etc., maître de conférence. Là on est vraiment dans les collections universitaires qui sont très intéressantes, parce que finalement vous avez des gens qui font de la recherche presque fondamentale, hein, désormais sur ces sujets-là, qui nous apportent beaucoup de connaissances. Voilà. Je vous mettrai bien sûr la liste de tous les bouquins dans les notes de l'émission avec des liens pour si vous voulez voir à quoi ils ressemblent. Et puis ensuite j'en ai trois pour finir. Devenir un pro démo, c'est sur les techniques d'écriture, le storytelling, le brand content, etc. J'en ai déjà parlé un petit peu, hein, de certains, mais ça fait partie des toujours continuer à s'améliorer dans l'écriture des choses. Stratégie de contenu et e-commerce, alors là c'est un bon pavé aussi, mais qui m'intéresse parce que notamment comme je fais du commerce en ligne, alors c'est pas un bouquin qui se lit de A à Z, mais c'est plutôt des bouquins sur lesquels on fait des références. Et puis si vous êtes dans les écritures, dans les techniques d'écriture, il y a la Bible bien rédigée pour le web, Isabelle Canivet, on en est à la 4e édition. Alors là c'est du pavé qui est mastoc, là c'est pareil, on est plutôt sur de la réflexion, sur des éléments on va piocher dedans des choses intéressantes, etc. Il y a énormément d'informations à l'intérieur, quoi. C'est vraiment un bouquin. Je ne conseille pas forcément de lire à des gens qui débutent, parce que. Enfin, ou si, il serait très bon à lire pour des gens qui débutent, mais il est tellement épais que forcément, au départ, il vous fait un petit peu peur. Voilà, donc vous avez vu ma liste, hein, je vais faire une petite photo, puis je la mettrai aussi sur Instagram. Je vous mets les liens de tous ces livres-là dans les notes de l'émission, comme ça vous aurez des liens directs, vous verrez les auteurs, un petit peu de quoi ça parle. Pardon, excusez-moi, je rebois un café avant de faire la conclusion quand même. Il est temps pour moi donc de conclure, vous voyez, j'ai dit, je voulais pas trop dépasser la grosse demi-heure. Donc, Je voulais vous remercier tous d'avoir écouté, d'avoir j'ai eu des chouettes commentaires, des belles remarques, des félicitations, etc. Des remarques toujours très constructives qui permettent de progresser, qui permettent d'avancer, qui permettent de qu'on progresse tous ensemble. Ça fait avancer les réflexions. Vos questions font avancer mes réflexions. Et j'espère que mes réflexions font avancer vos réflexions à vous et vos contenus, et que vous avez envie d'en faire aussi pas mal de choses. C'est ainsi qu'on progresse, hein, c'est comme ça, en apprenant des autres, en apprenant aux autres, et en transmettant des choses, bah, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on grandit. Merci donc pour vos commentaires, vos remarques et autres. Je voulais juste vous demander un tout petit truc par rapport à ces commentaires et remarques. Vous avez envie, mais vraiment si vous avez envie, hein, c'est d'aller, et si vous avez iTunes, d'aller en faire... de faire un petit commentaire, mettre une petite note dans iTunes, ça aiderait un petit peu le podcast aussi, bah, à se montrer à d'autres et qu'on agrandisse un petit peu notre cercle de gens, de créateurs de contenu et de gens qui partageons nos astuces, nos informations, nos conseils, nos encouragements et autres. Et parce qu'en fait, je crois que c'est Prof du Web qui dit ça, mais iTunes, c'est un petit peu la référence. C'est ce qui permet aussi au podcast d'arriver à se montrer un peu à d'autres personnes. Parce que finalement, le podcast, on n'a pas beaucoup de moyens de promotion dehors de ces plateformes-là. Donc voilà, donc je vous remercie d'avance pour ceux qui mettront un petit commentaire et une petite note. Je vous dis à très bientôt, mais je n'ai pas fixé la date du prochain enregistrement. Voilà, je ne peux pas vous dire non plus quelle sera la fréquence des nouveaux épisodes, parce que entre l'été, il y en aura cet été, hein, quand même, je voulais vous prévenir, hein, je ne vais pas me noyer sous les livres, hein, il y en aura cet été. Mais il n'y en aura pas dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, ou alors ce sera un petit épisode un peu spécial pour se faire un petit peu de plaisir, mais il n'y en aura probablement pas, mais par contre après ça va revenir petit à petit, parce que pour fixer un nouveau rythme, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à demain, mais en tout cas je vous dis à bientôt, passez un bel été, amusez-vous bien, créez du contenu, n'oubliez pas le groupe lui, bien sûr, est toujours ouvert, mon Twitter est toujours là, je suis toujours présent à discuter à droite, à gauche, n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai aussi là pour vous y répondre, je vous souhaite donc un bel été, j'espère que vous pourrez prendre des vacances, et que moi j'aime bien le moment des vacances aussi, parce que c'est le moment où ben, on a le temps de changer de sujet, et de faire d'autres photos, de faire d'autres choses, etc. Reposez-vous bien, profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille, et je vous dis à très bientôt, donc... pour de nouvelles aventures. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.